Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Et place aux vraies voix qui font bouger la France jusqu'à 20h sur Sud Radio à partir de 19h30. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais tout de suite, place aux voix de la politique. Nous allons parler de cette vidéo qui a scandalisé la France entière, le lynchage, le passage au tabac du jeune Youri, 15 ans. C'était à Paris début janvier. La vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ensauvagement, France orange mécanique, impunité. La police cherchent toujours les agresseurs. Ils étaient plus d'une dizaine à lyncher le jeune homme au sol. Est-ce que la présidentielle 2022 va se jouer précisément sur la sécurité? On en parle dans un instant avec Nicolas Corato et Guillaume Bigot sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
La France a peur.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va pas vous en débarrasser.
Les hommes de l'endroit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit.
Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4000, des trafics et des trafiquants.
La France et les Français ne sont plus en sécurité. Et des mesures d'urgence s'imposent.
Aucune infraction, si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse.
Jamel Abdellah à la réalisation des voix de la politique ce soir sur Sud Radio. Ce que vous avez entendu, c'est une bonne partie des campagnes présidentielles des 20 ou 30 dernières années. C'est peut-être aussi un résumé de la prochaine campagne présidentielle. Se jouera-t-elle pour 2022 sur la sécurité? C'est une question qu'on pourrait se poser après le scandale de la vidéo du lynchage du jeune Youri, 15 ans, dans le 15e arrondissement de Paris. Il est passé à tabac pendant des minutes et des minutes par une dizaine de jeunes. Il vient à peine de sortir du coma à l'hôpital Necker, enfant malade de Paris, d'après sa mère. La présidentielle se jouera sur la sécurité. On se pose cette question justement avec Guillaume Bigot. Bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie Bordry.
Politologue, auteur du livre Populophobie, pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française. C'est publié chez Plon. Nicolas Corato est également avec nous sur Sud Radio. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Marie.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est publié chez Eredium. Nicolas Corato, le sentiment d'insécurité, la sécurité tout court, l'insécurité tout court et la violence, l'ultra-violence dirait-on même, de certaines bandes de jeunes. Est-ce que ce sera l'un des sujets majeurs de cette présidentielle ?
Certainement. D'abord, c'est pas nouveau et malgré le drame absolu et l'horreur et le barbarisme du lynchage du jeune Youri, votre montage d'introduction montre bien que ça fait des années que le monde politique et la société française est traversée par cette question de la violence, de la sécurité et de la réponse à cette violence. Donc, ça ne sera pas une nouveauté dans une campagne présidentielle. L'autre point, c'est que on le voit bien, tous les camps politiques, j'ai envie de dire, et peut-être avant tout celui qui est au pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron, a fait de la sécurité, depuis ces quelques derniers mois, un enjeu majeur. Je ne dis pas que les actions portent leurs fruits, je dis qu'il a mis au centre du jeu politique cette thématique qui était plutôt l'apanage ces dernières années d'une certaine droite ou d'une certaine extrême droite pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dernière chose qui me semble un peu particulière cette fois-ci, c'est que oui, il y a une multiplication de faits divers horribles qui viennent, je dirais, hanter le débat public. Et en même temps, pour la première fois depuis longtemps, la situation sanitaire, les confinements, les couvre-feux font que la question des libertés n'a jamais été aussi centrale dans notre vie société. Et donc, on a un peuple qu'on prive de liberté et qui se sent en insécurité. Et vous savez, parfois, on a été tenté de dire « Allez, on renonce à quelques libertés pour être plus en sécurité, pour lutter contre le terrorisme, pourquoi pas pour lutter contre le grand banditisme ou pour lutter contre les affreuses exactions dont l'affaire Youri est le témoignage. » Et cette fois-ci, on a peut-être les deux à la fois, c'est-à-dire un désir de liberté et un désir de sécurité, qui ne sont pas ancrés sur les mêmes domaines, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait la liberté pour les bons citoyens et la sécurité pour les mauvais. Mais c'est peut-être la première fois depuis des années que ces deux thématiques vont devoir être traitées ensemble, avec là-dessus un grand écart difficile à tenir. Je prends un dernier exemple. les manifestations contre la loi de la sécurité, contre la dernière grande loi de ce gouvernement pour la sécurité, c'est la loi pour la sécurité globale.
Tout à fait.
Les Français, certains Français sont descendus massivement dans la rue pour s'y opposer pour des questions tenant à la liberté. Voilà qui est très intéressant et qu'on doit remettre quand même dans le schéma de réflexion pour essayer de répondre à votre question, qui est une question très pertinente sur cette question de la sécurité qui hante quand même le débat politique depuis trop d'années.
Et ce que vous disiez aussi d'ailleurs sur les rapports entre la France, les Français plutôt, et leur police, on va y revenir dans quelques instants puisqu'à partir d'aujourd'hui s'ouvre le fameux Beauvau de la sécurité qui est pourtant contesté par un certain nombre de syndicats de police. Guillaume Bigot, est-ce que c'est le sujet majeur de la présidentielle 2022 qui se profile ?
Oui et non. C'est le sujet majeur, mais il ne peut pas être considéré, je dirais, séparément ou isolément du sujet de l'immigration, du sujet de la relance, de la prospérité, de la croissance économique, et donc du sujet de l'Europe. En fait, ces sujets sont absolument inextricable. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en réalité, c'est impossible d'assimiler, et on va revenir peut-être sur l'événement lui-même et sa signification, c'est impossible d'assimiler tant qu'on reste dans l'Europe, parce que l'Europe signifie que finalement, on n'appartient pas à une patrie, on appartient à une espèce de zone aéroportuaire avec un traité de commerce au-dessus, quoi. Enfin, je caricature à peine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement violent d'immigrer, en fait. Immigrer, c'est faire un deuil terrible, c'est changer de géographie, changer d'histoire. Et donc, ce deuil n'est possible qu'à certaines conditions, et l'une des conditions, c'est que la nation d'accueil ait une énorme confiance en elle et soit très patriote. Si cette nation se décrète nanifiée par la globalisation et n'ayant plus aucun avenir, l'assimilation, de toute façon, n'est plus possible. Bon. Ensuite…
Je mettrai un bémol à ce que vous disiez, j'entendais Nicolas Corato, ça ne m'étonnait pas non plus. Vous parlez d'assimilation, donc vous parlez d'immigration aussi, pour le coup. Et du coup, j'imagine que vous faites allusion aux agresseurs. On pourrait parler aussi de l'agressé, pour le coup. Il s'appelle Yuri, sa famille est ukrainienne.
Bien sûr.
Guillaume,
en un mot et ensuite Nicolas.
Oui, je te laisse finir, Guillaume.
L'origine de ces agresseurs, on les connaît pas, ils sont pas été appréhendés.
Absolument.
L'origine de l'agressé, on s'en fiche un peu. Le phénomène est bien documenté. En fait, qu'est-ce qui est nouveau? C'est nouveau d'abord, c'est la quantité de ces événements. C'est pas, ils datent depuis longtemps. Mais surtout, c'est le fait qu'ils aient droit de citer dans l'espace public. Parce qu'en réalité, ça a été rappelé à très juste titre par Nicolas Corato tout à l'heure, ces événements étaient, pudiquement cachés. Et c'était que, finalement, l'extrême droite, ou alors la droite très dure, qui parlait de ces sujets.
Je me rappelle aussi Jean-Pierre Chevènement qui parlait, et vous le savez encore mieux que moi pour l'avoir vécu, de Sauvageon.
Oui, mais il avait justement cette expression de Sauvageon. Je pense que le problème était beaucoup moins grave à l'époque en quantité, peut-être pas en qualité, mais en quantité. Et l'expression Sauvageon, c'était déjà une forme d'édulcoration. En fait, ce phénomène a été débunké, déghettoisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène et pourquoi on peut le relier à l'immigration? Ce phénomène, c'est un phénomène de violence gratuite. C'est-à-dire, alors, oui, mais c'est Orange Mécanique, ce sont des Anglais qui tabassent des Anglais, etc. Bien sûr.
Ça, c'est un film, c'est la différence aussi. Allez-y.
Bien évidemment, mais je crois qu'il y a quelque chose dans ce phénomène qui est lié, et ça a été étudié par un pédopsychiatre absolument remarquable qui s'appelle Maurice Berger, qui n'a rien de quelqu'un ni d'extrême droite, ni même de droite d'ailleurs. Il a travaillé dans des centres de rétention pour mineurs.
De redressement, oui.
Et il a bien observé qu'en fait, il y a un sentiment que l'autre, qui est différent du clan, qui est différent de la religion, du groupe d'appartenance d'origine, et différent même de la cité d'où on vient, l'autre n'existe pas, n'existe plus. Donc on peut se défouler littéralement sur lui, le martyriser, le maltraiter, l'éliminer, etc., tel un ennemi.
Ça fait partie effectivement des thèses de Maurice Berger, qui est pédopsychiatre et qui en avait fait notamment plusieurs ouvrages, effectivement.
Il a fait avec ce genre de client, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène clé, c'est la gratuité de cette violence.
Qui est manifeste en tout cas sur la vidéo de l'agression jeune Yuri. On le voit puisqu'ils sont 11, ils ne bougent plus, il est déjà par terre. Enfin bref. Nicolas Corato.
Oui, dans plusieurs choses. D'abord, il faut quand même qu'on ait conscience, malgré l'absurdité de cette violence et l'ignominie de cette violence, que Nous vivons en France aujourd'hui dans une société beaucoup moins violente qu'il y a un siècle ou qu'il y a quelques dizaines d'années. Et que la société française, ça toutes les études sociologiques le prouvent, est beaucoup moins violente aujourd'hui qu'avant. Même si nous sommes devenus complètement, cette violence nous est devenue complètement insupportable, mais notre degré d'assimilation de la violence a énormément baissé, ce qui est tout à fait normal et justifié.
Comment ça s'explique dans ce cas-là qu'on supporte moins ce qui, d'après vous, est en baisse?
Mais parce que cette violence physique nous est devenue insupportable, parce que finalement, elle ne fait plus partie de notre quotidien. Il y a eu des moments dans l'époque, dans l'histoire de France, mais même des moments calmes dans l'histoire de France, où il y avait une violence endémique dans les villes, dans les campagnes. Enfin, il y a qu'à relire Victor Hugo. Enfin, c'est tout ça, tout ce que je vous raconte n'est pas nouveau. Deuxième point sur lequel je suis absolument en désaccord avec Guillaume, c'est quand il commence immédiatement à partir de l'immigration pour arriver à cette délinquance. Mais là, on a un désaccord de fond. Moi, je considère que c'est pas un problème d'immigration, c'est un fait social, la violence. Il y a un problème de traitement social de la jeunesse, d'une certaine partie de la jeunesse en France, et c'est pas parce que ces jeunes sont d'origine immigrée. D'ailleurs, le plus souvent, ils sont français quand ils commettent des actes délictueux, et on ne sait pas qui sont les auteurs du lynchage de Youri. Mais pour anticiper sur ce débat, puisqu'à chaque fois on anticipe sur ce débat maintenant que les langues se sont libérées et qu'on a le droit de parler dans sauvagement sans faire référence à l'auteur de cette notion qui est quand même qui correspond aux heures les plus noires de l'histoire de notre pays. Mais puisqu'on en parle, le sujet c'est pas l'origine de ces enfants ou de ces adultes qui sont hyper violents. Le sujet, c'est le contexte social dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont vécu. C'est les ghettos dans lesquels on les a tenus. Et là, je rejoins Guillaume, effectivement, sur le fait que dans un ghetto, l'autre n'existe plus. Il n'y a plus que le groupe. Il n'y a plus que cette notion d'appartenance, non pas géographique à un pays d'origine ou à une religion, mais à la cité, au hall d'immeuble dont on est issu, au mode de défense de groupe qui sont complètement délirants, au fait qu'il n'y a plus un seul adulte qui soit un repère extérieur, au fait que les services publics soient plus présents. Ben, je veux dire, il y a un moment, le traitement, moi je veux bien qu'on parle d'ensauvagement, mais alors arrêtons l'immigration, vous ne réduirez pas la violence dans ce pays. Parce que la violence aujourd'hui dans ce pays, c'est d'abord une violence qui naît sur un terreau social. Alors pardon, c'est vieux jeu, c'est pas aussi moderne que l'ensauvagement.
Personne ne vous demande de vous excuser, Nicolas Corato.
Non, mais je souhaite m'excuser parce que je vais être encore l'islamo-gauchiste de service. Mais je le dis, cette thèse de l'ensauvagement mène à l'impasse. Moi je veux bien la prendre avec vous, je veux bien qu'on construise une politique publique à partir de l'ensauvagement, vous n'arriverez à rien en termes de violence tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes sociaux qui, dans son pays, font que des gamins vivent dans des cités entre eux, sans aucun repère extérieur.
Et encore, on parle de ceux qui passent à l'acte et qui commettent ce genre d'acte, parce que si chaque habitant de ce genre de quartier commettait ce genre de saloperie ou d'acte absolument hyper violent, des vidéos comme ça, on en verrait plusieurs par jour et qui feraient tout autant scandale. Il faut aussi le rappeler. Guillaume Bigot, est-ce qu'il n'y a pas quand même une solution un petit peu de facilité qui consisterait à dire « oui, mais en fait, le problème vient d'ailleurs, donc c'est pas un problème de notre pays, c'est comme si c'était un problème extérieur qu'il faudrait régler ». J'ai pas l'impression que ce genre de vidéos, ce genre de scènes d'ultra-violence en permanence, elles soient omniprésentes et permanentes dans les pays d'où sont origines ceux dont vous dites, Guillaume, eh bien, qu'ils apporteraient les mœurs de là-bas.
Mais ils n'apportent pas les mœurs de là-bas. En fait, c'est un problème qui est lié à la contradiction totale.
Qui est franco-français aussi, alors, dans ce cas-là.
Les mœurs d'origine et les mœurs d'arrivée. Et tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'a dit Nicolas Corato très justement, c'est-à-dire qu'il y a un seuil d'acceptation de la violence, de gestion de la violence, même la capacité à se défendre, etc., qui est plus du tout le même par rapport aux années 70, dans la société française. C'est-à-dire que c'est une société qui est devenue très, très, très mièvre, en quelque sorte. Tandis qu'en face, ces jeunes, dans leur famille, même s'ils ont la nationalité française, ils sont élevés à coups de ceinturon et coups de châtiment corporel. Donc c'est une société ultra-patriarcale, brutale, dans laquelle, effectivement, la société encore, disons, assez patriarcale française des années 60-70 aurait pu plus facilement les assimiler. Mais dans la société d'aujourd'hui, évidemment, il y a une espèce d'effet de nitroglycérine.
Si alors, je suis votre raisonnement, je pourrais dire dans ce cas que le problème, et peut-être que vous seriez d'accord avec Nicolas Corato au cas où, le problème viendrait de notre société d'aujourd'hui plus que de cette violence qui, si je vous suis, a toujours existé, par exemple.
Non, elle vient de... Enfin, c'est un phénomène très complexe, c'est très difficile d'en parler en quelques minutes, mais grosso modo, bien sûr qu'il y a, de toute façon, ce que dit Corato est vrai, c'est-à-dire que disons, la misère sociale et économique est génératrice de violence, d'une part. D'autre part, il est assez normal et naturel, quelles que soient les origines, que ce soit sahélienne, musulmane ou pas d'ailleurs. Voilà, que tous les immigrés à l'origine soient davantage confrontés et à la misère et expriment de la violence. Ça, c'est sûr et certain.
Au début, en tout cas.
Ce n'est pas discutable. Seulement, il y a un phénomène qui est particulier, c'est d'abord la modification de notre propre rapport à notre propre culture, à notre identité, à notre volonté de les transformer en français. Et il faut bien comprendre que ces jeunes, quand ils rentrent au bled, ils sont traités français. Quand ils sont en France, ils sont dans un pays qui ne s'aime plus lui-même et qui n'ose pas les transformer en français et qui veut maintenir leurs différences. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qui pousse naturellement à la violence, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction contradictoire. C'est debout et assis.
Alors, c'est pour l'analyse du phénomène. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des solutions. J'aimerais juste qu'on avance un petit peu aussi, Guillaume, sur quelles solutions, puisque nous sommes dans les voies de la politique, justement, que peuvent proposer les candidats, quel que soit leur camp, pour les prochaines présidentielles. On part du principe que le sentiment d'insécurité, c'est ce que vous dites tous les deux, je crois ne pas trahir votre pensée, le sentiment d'insécurité augmente. Que peut faire le gouvernement face à ça ? Nicolas d'abord, Guillaume ensuite.
Moi, je continue à penser qu'une partie de la réponse, parce qu'on a un arsenal répressif très, très à la hauteur en France. On le dit jamais parce qu'on a toujours l'impression que les mineurs sont dans l'impunité en France, mais on a le code des mineurs le plus répressif de l'Europe.
Donc il n'est pas appliqué.
Nous sommes un des seuls pays d'Europe à mettre des mineurs en prison. Donc il n'y a pas de défaut de sanction dans ce pays pour les actes répréhensibles commis par des mineurs. Je voudrais que là-dessus, et il y a toutes les données objectives sont là pour le prouver. La question pour moi, elle est maintenant de l'accompagnement. Moi, je peux pas laisser dire à part Guillaume que ces enfants issus de l'immigration sont élevés à coups de ceinturon. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est faire offense à beaucoup de parents qui ont beaucoup de mal à élever leurs enfants et qui ne recourent pas au ceinturon comme objet d'éducation. Le problème dans beaucoup de familles, c'est l'absence des parents. Le problème, c'est les familles monoparentales. Le problème, c'est des familles dans lesquelles les parents travaillent la nuit, dans les bureaux, pour faire le ménage, tous ces gens qui étaient en première ligne. Vous vous souvenez, pendant le premier confinement et qu'on applaudissait avec les médecins et les aides-soignants et qui venaient nous apporter ce dont on avait besoin pour vivre dans nos grandes villes perdues, eh bien, tous ces gens-là, ils travaillent de nuit et ils n'élèvent pas leurs enfants selon des cadres normaux ou selon les nôtres, ils élèvent leurs enfants en fonction de leurs contraintes sociales et de travail. Et bien entendu, la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne collectivement toute cette jeunesse de la maternelle jusqu'au lycée pour créer de nouveaux projets personnels pour ces jeunes, pour faire en sorte que leur avenir ne soit pas uniquement lié à celui de la bande de la cité qui les entraîne notamment vers la délinquance, parce que dans les phénomènes de bande, il y a aussi des phénomènes positifs. On voit aussi des choses très très bien sortir des cités. Mais le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on recrée un accompagnement citoyen pour ces jeunes, pour les sortir de là où ils sont. Pourquoi est-ce que la méritocratie républicaine se concentrerait dans les lycées des centres-villes et n'irait pas un peu plus dans les cités où on a enfermé ces jeunes ? Il faut faire sortir de ces jeunes de leur enfermement, parce que s'ils restent enfermés, ils deviendront fous et parfois effectivement, ils passent à l'acte et commettent des actes qui sont fou de violence et fou de barbarie.
En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur la vidéo de l'agression du lynchage du jeune Yuri. Guillaume Bigot.
Alors, évidemment, je tiens à préciser que tous les jeunes issus de l'immigration ne sont pas du tout concernés par cette ultra-violence. Hein. Ça correspond
qu'on avait dit avant d'ailleurs, mais on peut le redire effectivement.
Minoritaire. Quant à cette éducation patriarcale, elle est le fait de jeunes qui sont des primo, des enfants de primo arrivants, des gens qui sont arrivés au bout de 2-3 générations, bien sûr, c'est les mœurs, des mœurs occidentales qui vont tendre à se répandre. Mais enfin, grosso modo, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut refaire nation, en fait. Alors, refaire nation, ça a l'air d'être un slogan, mais ça veut dire qu'on doit vraiment maintenant exalter ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare. C'est plus possible. Ce droit à la différence est une impasse terrible. En fait, ça finira très très mal. Le rétablissement d'une forme de service militaire est très importante. La mobilité sociale est extrêmement importante. La croissance économique, bien sûr, ça aide. Ça va permettre aux gens de faire société.
C'est difficile. Ça, c'est logique, mais c'est difficile à décréter à partir d'un programme politique pour une présidentielle.
C'est surtout totalement impossible à l'intérieur du carcan de l'Union européenne. Mais surtout, je crois que l'idée, c'est que il y a vraiment quelque chose. Ce qui est complexe dans cette affaire, c'est qu'évidemment, tous les enfants issus d'immigration n'ont pas ce type de comportement, mais qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, me semble-t-il, à rester dans le déni, c'est-à-dire à ne pas vouloir reconnaître que ce phénomène relève quand même d'une espèce de haine, ce qui n'est pas que une haine de classe. Ce n'est pas que un problème social et économique, il y a aussi une haine de nature culturelle contre une société dont on ne veut pas, qu'on rejette, qu'on hait en définitive. Et c'est la seule explication rationnelle d'une violence qui est absolument gratuite. Parce qu'on peut comprendre que les gens s'adonnent au trafic de stupéfiants, on peut comprendre que ce trafic de stupéfiants génère de la violence, on peut comprendre la rivalité entre bandes, on peut comprendre même les rapports violents entre les policiers et les trafiquants ou les délinquants. On n'a jamais vu, en fait, une telle violence. Pour comprendre une telle violence, il faut se mettre dans la tête d'un soviétique qui arrive à Berlin, en fait, en 1944, et qui va casser, piller et détruire tout. Il faut se mettre dans la tête d'un Prussien qui arrive en 1870 à Paris et qui a le souvenir de ses pères parce que la Révolution française a agressé
Oui, mais pardon, dans ce cas-là, pour revenir... Guillaume, juste sur la comparaison historique. Pardon, Guillaume, vous faites des comparaisons avec la fin de la Seconde Guerre mondiale ou alors avec la guerre de 1870. Il y avait énormément il y avait énormément plus de morts à ces deux époques. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas un million de morts en France tous les jours. Guillaume.
Si vous voulez, Jean-Marie, dans toute comparaison, il y a un point qui invalide la comparaison. Ça, c'est évident, ça n'a rien à voir.
Oui, mais c'est le plus important.
Un point qui est commun, ce point commun, c'est que je pense qu'il y a un sentiment de vengeance et un ressentiment extrêmement profond à l'égard de la France et des Français. En fait, Renan a dit, la nation, c'est la volonté de vivre ensemble, c'est un plébiscite de tous les jours. À chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, c'est un plébiscite à l'envers. On voit qu'ils n'ont aucune envie de faire nation.
En tout cas, ceux des lyncheurs, disons-le, appelons-les comme ça, qu'on a vu sur cette vidéo qui s'en prenait au jeune Yuri. Il est sorti du coma, c'est quand même la bonne nouvelle de la journée. C'est sa mère qui a appris la nouvelle, qui a informé les Français de la nouvelle, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Merci à tous les deux d'être intervenus ce soir dans les voies de la politique. Guillaume Bigot, politologue, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, la suite des vraies voix qui font bouger la France. On va revenir sur un monde un petit peu plus calme et un petit peu plus apaisé. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est sur Sud Radio et sur Bismart avec Stéphane Soumier.